Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean Roulet.
Bonjour, bienvenue sur l'agenda littéraire de Canal Académie. Nous présentons aujourd'hui le livre de Jacqueline de Romilly intitulé « Ce que je crois » et publié en 2012 par les éditions de Fallois. Jacqueline de Romilly l'avait écrit après les événements de mai 68. Elle nous rappelle ici la perte de repères qui avait suivi cette forme de révolution.
Ce qu'on nous avait appris à aimer, on nous apprend à le répudier. La maîtrise de soi, la réserve, il n'en faut plus. La raison ? Après le primat de l'inconscient et le règne de l'absurde, il vaut mieux ne pas trop en parler. Les vertus changent plus vite que les modes vestimentaires. Même les mathématiques ont changé.
Après le fameux déclin des absolus mathématico-logiques, ce sont maintenant tous nos vieux absolus, civiques, moraux, religieux, que l'orage de mai 68 remettait en cause. Et alors que toute une société doutait, Jacqueline de Romilly éprouvait la nécessité d'écrire son credo. On ne s'étonnera pas qu'elle se soit alors tournée vers la Grèce antique. Elle lui avait consacré sa vie de traductrice et d'enseignante. Elle en admirait les valeurs, et son livre nous les donne en exemple. Un livre qui, 40 ans après avoir été écrit, 2 ans après la mort de son auteur, vient seulement de paraître. Autant dire, un livre testament et qui devra nous rester comme un livre culte. Ce que Jacqueline de Romilly écrivait il y a 40 ans n'a rien perdu de sa pertinence. Notre société est toujours en crise. Elle en est toujours à chercher ses marques. Et l'exemple de la Grèce antique continue de lui offrir un modèle d'équilibre dans le bonheur de vivre. Les Grecs pouvaient bien avoir les mêmes raisons que nous de blâmer la société, de déplorer l'absurdité du monde. Ils ont choisi une autre voie qui les a préservés de se complaire dans le confort ou de s'étourdir dans la drogue, le bruit, la violence. Jacqueline de Romilly évoque sa propre vie. Un parcours qui ne l'a pas épargné, avec son lot de déboires et d'épreuves. Elle refuse pourtant de s'en plaindre. Contre vents et marées, elle plaide encore pour l'amour de la vie.
Un jour, je regardais un rocher tout juste couvert par la mer et auquel s'accrochaient des algues, les pauvres algues. La vague montait puis descendait, les tirant vers le bas, tordues, presque arrachées, et les laissait à sec. Puis la vague remontait et aussitôt projetée vers le haut, elle se rouvrait dans la mer pour un instant. Et je me disais, pour nous il en est ainsi, cela tire, mais nous tenons. Cela continue indéfiniment, mais à chaque instant, on peut à nouveau s'épanouir et reprendre des forces. La vie est ainsi et pourtant je l'aime. Ma vie est ainsi et pourtant j'ai été heureuse.
Jacqueline de Romilly se veut à l'image des anciens Grecs. leur courage a été d'avoir su aimer la vie telle qu'elle est, sans pour autant l'embellir. À partir de leur malheur, ils ont inventé la tragédie. Sans chercher à se mentir, tout en préservant leur attachement au bonheur, ils ont raconté le scandale de la guerre, de la cruauté, de la mort. Ils ont reconnu l'éphémère de la vie tout en la vivant dans son œuf. À leur exemple, Jacqueline de Romilly entend montrer que le bonheur n'est pas l'absence du malheur, mais une façon de vivre le présent, la vie simple de tous les jours.
Et d'abord, cette première merveille, voir la lumière. Ainsi les Grecs définissaient-ils le fait de vivre. Et les mots contiennent déjà, c'est le cas de le dire, comme une illumination. Simplement cela, la lumière. Tous ceux qui meurent dans la tragédie disent en mourant adieu à la lumière. Soleil, je viens te voir pour la dernière fois. Le verre que Racine met dans la bouche de Phèdre n'était justement pas dans le modèle grec, mais c'était au détail des mots près l'adieu que prononçaient Œdipe, Antigone, Ajax, Alceste et Polyxène.
Jacqueline de Romilly retrouve cette même lumière, ce même soleil, dans son évocation des paysages provençaux. Son bonheur n'est pas une fuite, il est tout au contraire une présence au monde. Il se retrouve dans les difficultés du quotidien, celle de l'enseignante, soucieuse de partager avec ses élèves la même patience, la même tendresse que Socrate avec les siens. Elle parle des sentiments du maître à l'égard de ses disciples en quête de sagesse, de la séduction qui pouvait alors s'établir, et nous demande de ne pas y voir malice.
Ces jeunes gens-là, j'en connais même encore maintenant. Je sais combien sont charmantes et nobles cette confiance d'une part, cette patience de l'autre.
C'est ce qu'il y a d'attachant dans cet ouvrage, celui d'un professeur de grec en qui se confondent et l'amour de son métier et celui de la Grèce. Deux amours, une même passion. Apprendre et comprendre. Le même mot en grec, nous dit Jacqueline de Romilly. Un mot qui signifie également voir la lumière, voir clair.
Thucydide s'occupait des maladies des états, Hippocrate des maladies du corps, mais l'effort était le même.
L'un et l'autre voulaient comprendre. La tragédie aussi s'est forcée de comprendre. Elle se voulait lucide jusque dans l'héroïsme. Jacqueline de Romilly a vécu cette même obsession de comprendre dans son activité d'enseignante autant que de traductrice et jusque dans sa réflexion sur notre monde moderne.
Comprendre est ma joie et aussi faire comprendre.
Mais elle précise ce qu'elle entend par comprendre.
Comprendre ne suppose nullement que l'on veuille tout ramener à la raison. C'est avant tout cerner, reconnaître ce qui ne peut pas être compris, ce qui se dérobe et se situe par-delà.
La raison grecque n'est pas le rationalisme du siècle des Lumières. Son effort pour comprendre se situe en un temps où le rationnel et l'irrationnel étaient encore étroitement mêlés. Hérodote est tout près d'admettre l'intervention des dieux, nous dit Jacqueline de Romilly. Elle constate aujourd'hui un retour en force de l'irrationnel et de l'inconscient. Mais elle le voit comme un effort pour pousser plus avant les mécanismes de compréhension. Une démarche qui ne peut toutefois pas être une fin en soi.
Toutes les ressources de l'irrationnel, des rêves, des intuitions, des révélations, doivent, en définitive, accroître notre compréhension et la plonger dans les profondeurs ne me paraît avoir de prix que si le plongeur parvient à remonter au jour.
L'essentiel est d'avoir admis la nécessité de comprendre. Jacqueline de Romilly l'inscrit dans son credo. Le monde irait mieux si chacun dans son domaine s'efforçait de comprendre. Sa grande référence, Thucydide. Thucydide s'efforçait de comprendre la guerre du Péloponnèse et Jacqueline de Remilly s'efforçait de comprendre Thucydide.
Vouloir comprendre exige que tout se tienne, comme dans la pensée platonicienne, et que la science n'aille pas sans une morale, une esthétique et une métaphysique. On ne comprend rien si on ne cherche pas à comprendre tout.
Jacqueline de Romilly regrette seulement le temps où les sciences encore jeunes pouvaient s'unir et se combiner dans une seule tête qui en accueillait l'évidence, alors qu'un fait scientifique requiert aujourd'hui des connaissances beaucoup trop vastes et ne peut que mobiliser une équipe de spécialistes. L'important est malgré tout de conserver à la compréhension son même niveau d'ambition. Entre vouloir comprendre et renoncer à comprendre, le combat est aussi rude qu'entre le bien et le mal. Jacqueline de Remilly y voit un même enjeu, celui de la liberté. Plus encore qu'à l'opposition entre le bien et le mal, chaque instant de l'esprit se confronte à une lutte entre lucidité et passivité. On peut s'abandonner aux caprices de nos passions, à l'image des héroïnes d'Euripide, ou bien s'efforcer de mieux comprendre afin de mieux agir et de se conduire selon son jugement. Et Jacqueline de Romilly en revient à Thucydide, qui fut sans doute le premier historien à se vouloir lucide, à donner l'exemple d'une approche scientifique de l'histoire. Jusque-là, tout s'accorde parfaitement. La lucidité au service de la compréhension, l'une et l'autre nécessaires à l'exercice de la liberté. Ce bel édifice n'est pas nouveau, reconnaît Jacqueline de Romilly. Mais ne risque-t-il pas de se fragiliser lorsque la lucidité en vient à découvrir ses propres limites?
Les découvertes sur l'inconscient entraînent ou risquent d'entraîner un renoncement à la lucidité du seul fait qu'elles en montrent les limites. À cela s'ajoute que s'il s'agit de se comprendre soi-même, le recours à autrui nécessaire dans bien des cas risque de favoriser l'habitude de la démission.
Là est le danger, dans ce renoncement. Jacqueline de Romilly préfère plaider pour un humanisme moderne, qui, nous dit-elle, est en définitive une morale de la liberté.
Ce désir ardent de lucidité se combine pour moi avec un certain nombre d'aspirations qui le complètent ou le dépassent. Ces autres aspirations, qui sont comme autant d'articles de foi, rejoignent pour moi la beauté de la vie.
Des aspirations qu'il serait grand temps de définir. Mais c'est aussi ce qu'il n'est pas facile de faire, avoue-t-elle. Et là, son credo apparaît d'un autre ordre que celui d'un savoir livré aux inévitables incertitudes.
J'éprouve au fond de moi le sentiment, peut-être scandaleux, que les diverses formes de foi, fût-ce la foi rationaliste, se rejoignent en un certain sens. Elles traduisent toutes un même besoin de transcendance, ou du moins un même recours à des valeurs avec lesquelles on ne transige pas.
Au fond, qu'importe l'expression de ces valeurs, pourvu qu'elles témoignent d'une même aspiration au dépassement, d'une lumière que le regard ne peut soutenir. Ce qui nous ramène au mythe de la caverne. L'ultime raison qui pousse Antigone à mourir pour ensevelir son frère, c'est l'obéissance. L'obéissance aux lois non écrites, inébranlables des dieux. Antigone témoigne ainsi d'une exigence dont les Grecs n'ont certes pas le privilège, Jacqueline de Romilly le reconnaît. Mais c'est à la longue fréquentation de leurs textes qu'elle s'en est elle-même imprégnée. Exigence définie comme un élan vers autre chose, vers une faculté de voir la lumière à un certain niveau. Exigence que Jacqueline de Romilly se plaît à retrouver chez ceux qui, au péril de leur vie, se sont engagés dans la résistance. Et elle ne s'étonne pas de compter parmi eux de nombreux hellénistes, familiers des héros, prompts à les imiter. Implicitement, Jacqueline de Romilly leur reconnaît le sens de l'absolu. Jacqueline de Romilly prend pour référence la cité grecque du 5e siècle avant notre ère, au temps où le sort de l'individu était lié au sort de la cité. Il y régnait une solidarité qui avait le goût du bonheur. Paradoxalement, elle s'en est sentie proche lorsque, juive, sous l'occupation, le « nous » prenait alors un sens, tout comme il prit un sens dans l'Israël des kibbutz. En des temps difficiles, tout individualisme aboli, elle a rencontré la beauté de ce « nous », la joie de cette solidarité. Là est le modèle du civisme, le bonheur qu'elle attend, un sentiment d'appartenance préservé de tout chauvinisme par le sens élargi du bien commun. Une fois de plus, Jacqueline de Romilly nous propose sa réponse d'helléniste. Parce que les hommes ne changent pas, parce que l'histoire se répète, le monde grec avait déjà rencontré les difficultés que traverse aujourd'hui notre modernité. Ayant évoqué le conflit entre Athènes et Sparte, les analyses que nous légua l'historien Thucydide demeurent à cet égard exemplaires. Ainsi, la guerre civile régnait entre les cités, nous dit-il. Jacqueline de Romilly en tire ses conclusions.
Cette description ne nous rappelle-t-elle rien ? Pour moi, elle rejoint dans une rencontre assez saisissante une expérience trop familière. La lucidité grecque m'y saute aux yeux. À travers les siècles, elle m'aide soudain à reconnaître le péril que créent les idéologies, quand elles doivent coûte que coûte sur tous les terrains ensemble passer par la lutte pour la puissance. Cette même lucidité m'aide-t-elle à lire le remède ? Hélas, tel est rarement le cas avec les leçons de l'histoire. La crise de la cité en Grèce entraîne des maux de toutes sortes, des asservissements, des haines, des massacres. Et puis rien ne fut changé, si bien que les deux camps furent tous deux si affaiblis que la Grèce ne s'en remit pas. Les Athéniens cessèrent de dire « nous ».
Quelles sont donc ces valeurs primordiales pouvant instaurer et préserver le bonheur de vivre dans cette solidarité que Jacqueline de Romilly appelle de ses vœux? Elle les a retenues d'une vie consacrée à la lecture et à la relecture des textes grecs. Les mots sont tellement plus forts lorsqu'ils nous arrivent à travers les siècles, nous dit-elle. Et elle cite en premier le respect de la loi. Là encore, l'exemple nous vient des Grecs. Le plus beau respect de la loi, c'est Socrate préférant boire la ciguë plutôt que de se soustraire à la loi, alors même qu'on lui en offrait le choix. Pourquoi donc un tel respect ? Mais parce que la loi est sacrée, parce qu'elle est là pour protéger les faibles, pour leur garantir la justice, la sécurité. Jacqueline de Romilly de déplorer au passage que cette sécurité n'existe plus dans nos grandes villes.
Il n'y a qu'un domaine où l'action soit possible pour réveiller le sens civique, et qu'un seul domaine où l'on puisse agir pour rendre la violence superflue et inefficace. Et c'est le seul que précisément tous les gouvernements de notre pays ont depuis quelque temps négligé de façon systématique. C'est celui de l'éducation.
Gardons à l'esprit que ce texte a été écrit dans les années 70. Mais qu'a-t-on fait depuis pour changer la donne? Qu'a-t-on réformé? Des horaires, des exercices, des examens. Dispensée par l'État, l'éducation risquait d'être trop unifiée et trop peu libre.
Du coup, l'on est passé à l'excès inverse, laissant l'éducation se faire ouvertement contre l'État. Alors que le plus urgent eût été de restaurer ce sens civique qui sert de fondement à la vie collective, on a développé de façon systématique l'agitation entre les parties, à un âge où les critères de jugement sont faibles et ceux de l'expérience nuls, et on a ainsi achevé de tuer le peu qui en subsistait.
Résultat, le système fabrique des casseurs qui, au-delà des biens matériels, cassent du même coup des biens autrement précieux, tels que la liberté d'opinion ou d'expression. Un seul remède pour échapper à ce mal destructeur, remettre l'éducation au cœur de l'enseignement et l'humanisme au cœur de l'éducation.
L'éducation, Platon le disait, et tous les peuples l'ont mise en pratique, libéraux ou totalitaires, a pour fonction primordiale de cultiver certaines valeurs qui sont le mérite propre de la race humaine et que les petits des hommes ont besoin d'apprendre. Par exemple, le respect de la vie humaine. Par exemple, le respect de la liberté. Par exemple, le respect de la justice.
Oui, c'est bien au niveau de l'éducation que l'affaire peut se régler. Tel est pour Jacqueline de Romilly l'un des incontournables de son credo. Son éloge de l'éducation ne fait qu'un avec l'éloge de l'humanisme. Et si une mutation salutaire est possible, sa voix se joint à beaucoup d'autres pour attendre qu'elle nous vienne des femmes à l'heure où elles accèdent enfin à une citoyenneté complète. Lors d'une prochaine émission, nous pourrons parcourir ensemble la fin de cet ouvrage. Mais peut-être aurez-vous déjà souhaité le découvrir par vous-même. Lire comment Jacqueline de Romilly, élargissant sa passion pour les textes grecs, nous propose un vibrant éloge de la littérature. Comment elle règle au passage quelques comptes avec les nouvelles méthodes d'enseignement. Comment elle regrette l'importance accordée à l'oralité au détriment de l'écrit. De son exigence, de sa rigueur, de ce qu'elle nomme sa transparence. Enfin et surtout, comment elle s'alarme de voir tout un pan de notre héritage culturel peu à peu menacé de disparition. Merci de votre écoute et au plaisir de nous retrouver bientôt en communion avec Jacqueline de Romilly.